J'enregistre aujourd'hui un épisode tout spécial qui est destiné aux futures accompagnantes périnatales ou aux personnes qui sont intéressées par le métier. Je reçois très régulièrement des demandes pour répondre à des questionnaires métiers pour des personnes qui sont potentiellement intéressées par la pratique de l'accompagnement périnatal et qui bien sûr souhaitent prendre des renseignements auprès des personnes qui exercent le métier. Et malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les personnes parce que je reçois ce type de demandes très régulièrement. Et donc pour cet épisode, j'ai décidé de répondre à un questionnaire qu'on m'a envoyé qui pourra servir du coup à certaines d'entre vous. Alors je parle au féminin parce que j'ai jamais reçu de demande masculine, mais si jamais il y a un homme dans la salle, c'est très bien aussi. Donc je vais répondre aux questions très spontanément, comme ça pourra servir au plus grand nombre plutôt que de répondre individuellement. Finalement, je me suis dit que j'allais me laisser porter à l'enregistrement par la voix. Donc je préfère vous préciser, je n'ai pas encore lu le questionnaire. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions, mais je ne les ai pas lues vraiment mot pour mot. Donc je vais répondre de façon hyper spontanée, ce qui me semble être le plus adapté pour que vous ayez une vraie idée aussi dans l'intonation que je peux avoir de la pratique du métier et puis l'authenticité, de la véracité de mes réponses. Hein. Le but, c'est que ce soit le plus sincère possible et non pas avoir quelque chose de ni trop sexy ni pessimiste ou quoi, enfin voilà, que ce soit vraiment sincère. Moi, pour rappel, j'exerce la profession d'accompagnante périnatale depuis 4 ans maintenant, et donc c'est une reconversion qui date d'il y a plus de 6 ans, hein, avec le parcours de formation qui a été un socle initial, puis un socle au fur et à mesure, quoi. Je continue de me former régulièrement, mais j'ai fait un socle initial de 2 ans. Alors, je prends la première question. Pourrais-tu définir les activités de ton métier, une sorte de journée type, si c'est plus simple pour toi ? Alors, je n'ai pas de journée type, c'est très compliqué. Alors, ça fait partie des choses chouettes, enfin, à mon sens, qui font partie de ma pratique professionnelle, c'est que je ne peux pas avoir 2 journées identiques. Enfin, c'est très rare, parce que comme c'est une profession libérale, en tout cas, moi, je l'exerce au statut libéral, eh bien, c'est en fonction de comment se remplit mon agenda. Donc, voilà, je ne peux pas trop anticiper à l'avance, mais moi, pour avoir un peu plus d'informations, quelles sont les activités de mon métier ? Eh bien moi, je propose de l'accompagnement périnatal, donc c'est-à-dire que je propose des rendez-vous où je vais apporter à la fois de l'écoute, donc on va dialoguer avec les personnes, et puis les personnes vont bénéficier de mon oreille attentive, de mon écoute active, et c'est une vraie posture professionnelle, hein, c'est pas juste parler à une amie ou quoi, c'est vraiment un peu plus élaboré que ça, bien sûr. Je vais être là aussi pour apporter des informations, donc on va faire des ateliers, ou alors au cours d'une séance d'accompagnement par l'écoute, je vais aussi apporter des informations quand c'est pertinent. Et je pratique également des soins, donc du massage, de l'acupression, de la réflexologie, de la visualisation, de la relaxation, donc je me forme très régulièrement aussi à des nouvelles pratiques de soins, dans la période périnatale. Donc j'accompagne les personnes qui sont dans le questionnement de leur éventuel désir d'enfant, les personnes en préconception, que ce soit naturel ou en parcours médicalisé, pendant la grossesse bien sûr, aux alentours de l'accouchement. Moi je ne fais pas d'accompagnement à la naissance à l'heure où je vous parle, pour plein de raisons, peut-être que ce sera abordé après. Donc, moi j'accompagne avant et après l'accouchement, et donc j'accompagne bien sûr le postpartum, et je vois les personnes jusqu'à ce qu'elles ressentent plus forcément le besoin. Donc moi je fais pas d'accompagnement à la parentalité au sens propre, mais sur l'accompagnement psycho-émotionnel, quand j'ai tissé un lien avec les personnes, eh bien ça arrive hein, que les femmes ou même parfois les couples reviennent me voir pour évoquer certains sujets, mais sans que ce soit autour de la parentalité, quoi, vraiment sur le côté mon bien-être, ma place, etc. Donc j'accompagne du désir d'enfant jusqu'au postpartum et la toute petite enfance. J'accompagne exclusivement les adultes en présentiel, donc j'ai un cabinet à Vannes, et en visio, hein, pour les personnes notamment qui écoutent le podcast, j'accompagne beaucoup beaucoup de personnes aussi à distance. Donc le ratio de rendez-vous, c'est très difficile de vous dire. Là, en ce moment, j'ai beaucoup plus de visio que de soins, mais je sens que la tendance est en train de, pas de s'inverser, mais d'évoluer, où j'ai un peu plus de soins qui s'annoncent pour avril, mai, juin là, 2024. Donc c'est très difficile de donner une journée type. Hein. Il y a des jours où j'ai que des visios, il y a des jours où j'ai que du cabinet, il y a des jours où j'ai un peu les deux. Enfin, voilà, ça, c'est très très brassé. Deuxième question, à ton avis, quelle est la meilleure formation qui prépare à ce métier ? C'est difficile de répondre très objectivement parce que je ne connais pas toutes les formations qui préparent à ce métier, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Ce serait tellement... Enfin, c'est partial comme réponse, quoi. C'est très subjectif, donc moi, je peux parler que des formations que j'ai faites, que j'ai toutes trouvées très chouettes. Moi, j'ai beaucoup adoré le CFAP. Pourquoi? Parce que c'est un vrai socle, en fait, hein. Ça apporte vraiment un ensemble de dimensions qui permettent de préparer au métier et non pas un petit module ou enfin voilà des morceaux de formation qui, mis bout à bout, créeraient le métier d'accompagnante. Moi, je trouve ça un peu limite. Je pense qu'il faut avoir une vraie approche globale et ce que j'ai beaucoup aimé au CFAP, c'est à Bordeaux, le CFAP, le Centre de formation de l'accompagnement périnatal, c'est qu'il y a à la fois de la théorie, de la pratique et il y a vraiment un gros socle sur le côté accompagnement. Et non pas que des connaissances sur la physiologie, de la fertilité, de la grossesse, de l'accouchement, sur vraiment les connaissances techniques de l'allaitement, etc., l'alimentation. Il y a tout ça, mais il y a aussi et surtout tout un échange autour de qu'est-ce que c'est que réellement accompagner avec des professionnels de la psychologie. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Après, voilà, c'est la seule formation socle que j'ai faite. J'ai fait plein d'autres formations autour de la périnatalité, mais pour préparé au métier, je peux parler que du CFAP, donc c'est très partiel. Je n'ai pas fait les autres formations, évidemment, enfin, personne ne va faire plusieurs socles de base qui vont répéter la même chose, quoi. Donc je ne peux pas répondre de façon exhaustive. Et je parlerai aussi de ma formation. Alors c'est bien sûr, c'est très impartial aussi, très partial, pardon, mais je suis en train de mettre au point, et là elle va être bientôt sortie. Une formation sur l'accompagnement de la préconception, parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a manqué. J'ai beaucoup été formée à partir de la grossesse, mais je rencontre énormément de personnes en préconception. Ça représente, je pense, la moitié des personnes qui viennent vers moi depuis le début de ma pratique, et ça m'a énormément manqué. Donc je me suis beaucoup auto-formée et formée sur des petits modules, à la fois techniques, etc., mais vraiment les connaissances autour de la fertilité, la physiologie de la conception, la PMA, etc. J'ai un peu cherché des morceaux de puzzle à droite à gauche. Et donc là, c'est au bout de 4 ans que je me sens OK de pouvoir proposer une formation solide pour les personnes qui veulent une formation complète autour du sujet. Voilà, petite parenthèse fermée. Troisième question, quelles sont les compétences professionnelles et personnelles nécessaires? Alors, moi, je pense déjà qu'il faut avoir beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est sûr et certain parce qu'on rencontre des personnes extrêmement différentes les unes des autres. Donc il faut être très tolérant et ouvert d'esprit. Alors compétences, je dirais plutôt professionnelles, c'est avoir des capacités d'écoute active. C'est aussi ce à quoi je forme des personnes dans un centre de formation parisien qui forme essentiellement aux soins autour de la féminité et du périnatal, parce que je trouvais que ça manquait aussi cette approche, et donc pour moi c'est absolument nécessaire d'être capable d'écouter réellement, et d'être capable d'encaisser ce que les personnes vont dire, d'être capable d'accompagner tout le côté émotionnel de ce qui va être confié. Alors oui, on n'est pas des psychologues, mais n'empêche que les personnes qui viennent à nous, elles ont une histoire, elles ont parfois des fardeaux, des choses très fortes à nous partager, puis c'est aussi des belles émotions parfois, mais ça s'improvise pas en fait de savoir accompagner, et ça pour moi c'est vraiment le plus important, d'avoir cette capacité d'écoute. Alors ça paraît un peu facile et simple pour les femmes et naturel, c'est pas forcément le cas. Donc il y a des personnes pour moi qui ne sauront jamais être accompagnants, et c'est comme ça, chacun son tempérament, sa personnalité, et on peut avoir une appétence et une éventuelle prédisposition, mais c'est pour moi une compétence qui se travaille absolument, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, donc ça j'insiste beaucoup. Les autres compétences, eh bien bien sûr, avoir un socle solide de connaissances sur tous les sujets autour de la périnatalité, bien évidemment, hein, autour de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum, de la fertilité, aussi autour du deuil, et puis d'autres événements comme l'adoption, etc. Hein, on accompagne vraiment tout autour de la périnate, des connaissances sur le développement de l'enfant. Et puis derrière, tout dépend de comment la personne exerce son métier, s'il y a une autre casquette, le soin, l'hypnose ou autre, eh bien évidemment, ce sera les compétences adaptées à ces pratiques-là. Mais vraiment, sur le côté accompagnement, ouais, je dirais cette écoute qui me semble primordiale. La confidentialité, la discrétion me semblent aussi très très importantes. Et plus largement, comme ce sont des métiers qu'on exerce jamais ou très rarement, je connais personne qui l'exerce en statut salarié, alors peut-être dans d'autres pays frontaliers, peut-être au Luxembourg, Belgique ou des endroits où peut-être le métier est un peu plus connu, mais en tout cas en France c'est pas le cas, tous mes collègues sont aussi en libéral, et eh bien ça demande des capacités, des compétences autour de l'aspect entrepreneurial. Ouais, ça me semble bien sûr logique, hein, que ce soit d'être un couteau suisse, quoi, en compta, en communication, de savoir préserver le côté pro, le côté perso, pardon, vis-à-vis du côté pro, tout en acceptant aussi que ben, nos heures, elles sont pas aux heures de bureau forcément. Hein, surtout au début, ça demande une énergie colossale hein, de créer sa place, de créer oui, son propre métier, parce que c'est pas un métier qui est reconnu, et puis voilà, on va pas nous embaucher en claquant des doigts en disant bah tiens, tu fais ça, je t'embauche, quoi. Non, on doit créer notre place, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, donc. Dans les compétences, ouais, je dirais être capable de s'adapter, une grande capacité d'adaptation, quoi. Donc je pense qu'il y a plein d'autres compétences qui sont absolument nécessaires dans le métier d'accompagnement, mais voilà, dans celles qui me viennent là, je vous dirais, c'est la posture d'écoute, la discrétion, le côté entrepreneurial, savoir être sage tout en sachant aussi ne pas compter ses heures au début, mais voilà, sans tomber dans le burn-out, enfin voilà, d'être capable de s'adapter et d'apprendre plein de nouvelles compétences au fur et à mesure. Ah, c'est exigeant, hein, finalement. C'est pas une pratique, encore une fois, ça peut sembler facile hein, d'accompagner les personnes dans la question de la maternité, mais la pratique n'est pas si facile que ça. Autre question, tu as parlé dans ton podcast qu'il est nécessaire d'avoir une formation en accompagnement. As-tu eu une formation particulière en plus de celle d'accompagnante périnatale pour apprendre à épauler les personnes ? Je l'ai déjà dit dans le podcast, donc peut-être que j'ai été redondante, mais je réponds aux questions. Alors non, je n'ai pas eu d'autres formations. Alors attendez, de mémoire. C'est des choses qui sont abordées dans beaucoup de formations, hein, même celles que j'ai faites après, en termes de soins ou des modules complémentaires sur certaines notions, mais le fait apprendre à épauler les personnes, donc être dans cette posture d'écoute, hein, je pense que c'est ça que ça veut dire, je l'ai appris au CEFAP. Et merci pour ça, vraiment, super centre de formation par rapport à ça. Nouvelle question, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton travail ? Il y en a plusieurs, alors les difficultés que je peux rencontrer... Ben, c'est déjà l'énergie que tout ça demande. Alors c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez ambitieux et j'aime proposer plein de trucs. Hein. Je me contente pas du métier d'accompagnante alors que je pourrais. Peut-être qu'à un moment je le ferai. Je suis aussi formatrice et puis animatrice de podcast comme vous le savez. Donc bien sûr je me rajoute du travail sur le travail. Mais c'est un réel plaisir. Mais seulement c'est assez exigeant en termes de disponibilité. Voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes de savoir. Le fait que ça prenne vraiment beaucoup d'énergie, de temps, même si là, depuis, je dirais, un an, je fais hyper attention, je travaille moins, parce que je sens bien que mon énergie n'est plus la même et que j'ai pas envie de me cramer, tout simplement. J'ai envie d'être une bonne maman, une bonne compagne, une bonne moi-même, moi et moi-même, et puis aussi une bonne accompagnante dans mon cœur de métier, une bonne formatrice, enfin voilà, d'être bien là où je suis et de pas être en batterie faible tout le temps. J'ai connu cette période-là, et là, je suis remontée. Donc voilà, je suis avertie, et je fais attention à la gestion de mon énergie. Au-delà du temps, c'est l'énergie plus globalement. Alors, dans difficulté, je sais pas si c'est... je vais rester sur la question de la difficulté. J'ai pas de difficulté pour avoir des accompagnements. Enfin voilà, j'accompagne pas mal de personnes. J'ai rarement des moments où je travaille pas ou peu. Alors ça peut, il y a des creux, hein, je veux dire, c'est normal, c'est une activité libérale, il y a des moments où t'es pas full, mais ça me va bien parce que dans ces moments-là, j'avance sur mes programmes de formation, je fais tout ce qu'une personne qui est en statut libéral ou entrepreneur doit faire à côté, de la compta, de la com, rattraper des mails en retard, donc voilà, moi ça me pose pas de soucis d'avoir des trous, même des... Alors des lapins, j'allais dire des lapins, j'en ai eu deux fois en 4 ans, donc c'est pas quelque chose de régulier, et tant mieux pour moi. Les personnes sont rarement me font rarement faux bond, ça m'est vraiment rarement arrivé. Mais même quand j'ai des annulations de dernière minute, ça me pose rarement souci. Donc c'est pas une difficulté. Peut-être, j'allais dire la solitude, ouais. Même si j'ai noué des super liens avec d'autres accompagnantes, j'ai ma binôme Flora, et puis j'ai des collègues sages-femmes, ostéo, etc. Mais parfois, c'est dur aussi non pas de discuter avec les personnes en solo. Ça, c'est quelque chose qui est facile pour moi d'accompagner en tête à tête les personnes, ou même avoir pas des assemblées, mais des groupes, que ce soit en formation, en atelier, mais plutôt parfois aussi d'avoir un avis, un retour de quelqu'un par rapport à une situation, de pouvoir échanger plus régulièrement sur comment je me sens, etc. Et puis de toute façon, en fonction des situations des personnes, je ne peux pas tellement en échanger parce qu'il y a un devoir de discrétion, ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, très important, mais plutôt des partages de ressentis qui pourraient me manquer. Mais ça, c'est quelque chose qui va évoluer très prochainement quand notre cabinet va ouvrir, parce que pour rappel, je fais construire avec des collègues, un ensemble de collègues, un pôle périnatal sur la ville de Vannes. Et donc là, les choses vont changer, on sera plusieurs, on pourra déjeuner ensemble, on pourra réaliser un vrai travail d'équipe. Voilà, c'est pour résumer, pour moi, ce qui peut être difficile, c'est d'être parfois un peu seule dans mon cabinet et de ne pas avoir au quotidien cette synergie, ce qui va évoluer. Donc ce ne sera pas une difficulté pérenne. Et si quand même une des difficultés, c'est la gestion des finances, parce que avoir une société, je suis en statut société, c'est quand même vachement balèze, c'est pas facile, et tu dors pas sur tes deux oreilles dans l'idée que ton salaire va tomber de façon hyper régulière, parce que même si je travaille, ça c'est une bonne nouvelle, mais n'empêche que quand t'as une société, t'as des charges et c'est pas aussi simple que ça, quoi. Donc ça c'est quand même une difficulté. Nouvelle question. L'entrepreneuriat n'est pas toujours facile, je pense. Es-tu accompagnée ou l'as-tu été? Alors oui, j'ai été accompagnée. J'ai fait trois coachings. Un avec une accompagnante qui est installée avant moi et qui proposait du coaching. Donc ça, c'était un point de départ. Ça m'a apporté un peu. Je dirais pas que c'est ça qui m'a apporté le plus. Après, j'ai fait un coaching avec Steven Graville, qui est un conseiller en développement et en création, enfin création et développement d'entreprise, hein, pour parler dans l'ordre. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. On a fait tout un accompagnement ensemble. Et c'est lui notamment qui m'a permis de passer en statut société, en m'aidant à comparer, à peser les pour les contre, à lancer le projet de cabinet. Donc il m'a quand même bien épaulée. Et ça, c'est assez chouette. Donc ça a été très positif et c'était des rendez-vous en présentiel. À côté de ça, j'avais déjà pas mal de connaissances sur le côté gestion d'entreprise, marketing, parce que j'ai une licence. Alors vous allez me dire rien à voir en tourisme, mais dans les compétences qui sont essentielles, il y a toutes ces questions de communication, de management, de gestion, de marketing. Donc voilà, ça m'a quand même pas mal aidé. Et puis une appétence aussi pour ce côté-là. As-tu réussi à en vivre rapidement, en combien de temps environ? Alors moi, je pense que je fais partie des personnes qui vont répondre assez favorablement. Peut-être que on est assez, on n'est pas beaucoup à se dire qu'on en vit rapidement. Moi, mon métier, j'ai pu en vivre au bout de 9 mois, à peu près. La première année, je me souviens, je me suis lancée en juin. Je crois qu'en avril, j'avais un vrai salaire, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ouh là là, ça c'est trop dur comme question parce qu'il y a plein de trucs que j'aime. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est la relation privilégiée que j'ai avec les personnes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la relation que j'ai avec les accompagnés, surtout quand c'est une relation à long terme. Évidemment, on ne tisse pas les mêmes liens quand on voit la personne une ou deux fois que quand on la voit tous les mois pendant un an ou deux. Enfin, clairement, rien à voir, quoi. Mais globalement, j'aime. En fait, il y a vraiment quelque chose d'hyper bienveillant dans les accompagnements. Donc ça, c'est trop chouette. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? J'aime apporter des vraies clés, du vrai soutien aux personnes, me sentir méga utile, clairement, de voir des pépites, de conscience, de sérénité, des remerciements, mais sincères, quoi, de waouh, ça a vraiment changé quelque chose pour moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'aime voir des situations se dénouer aussi. J'aime aussi de voir des personnes qui peuvent être apaisées, de pouvoir confier tout ce qu'elles ont besoin à confier sans se sentir jugées. En fait, il n'y a pas de solution miracle, hein, bien souvent, mais le fait de pouvoir les accueillir telles qu'elles sont, ça peut être tellement soulageant pour certaines personnes, et ça, pour moi, c'est hyper, hyper positif et gratifiant. Parce que je sais que parfois, on peut se sentir tellement mal qu'on pense qu'on est seul au monde et que personne ne va nous comprendre. Et moi, de permettre aux personnes de se sentir comprises dans ces moments-là, je trouve ça trop cool, vraiment. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Bah, j'adore transmettre. Alors, j'adore apporter des infos sur tous ces thèmes autour de la périnate. Donc là, je bifurque un peu parce que c'est plus la partie formation dont je vais parler, mais ça fait partie aussi de mon métier. Bah, j'adore transmettre aux autres professionnels. C'est vraiment, quand je suis en formation, je m'éclate, mais complètement. J'adore ça. J'aime créer de la formation, mais j'aime surtout la partager, quoi. Partager des connaissances et aussi avoir un vrai esprit d'éveil entre plusieurs personnes et qu'il y ait une cohorte qui se porte les unes les autres. Je trouve ça génial. Autrement, qu'est-ce que j'aime le plus? Bah, c'est ma liberté. Voilà, je suis libre. Si un jour je veux pas travailler, ben je me mets en off. Et puis si je décide au contraire d'ouvrir des créneaux sur des moments où d'habitude je travaille pas, ben, je le fais. Je suis libre de mes horaires, des personnes que j'accompagne. Je suis libre de la façon dont je travaille, même si en fait le but c'est de répondre aux besoins des personnes. Hein, donc je suis pas libre à 100% non plus, je vais pas faire tout et n'importe quoi pour le kiff, c'est un métier. Hein. Mais voilà, à partir de là, je peux créer aussi des choses en constatant des manquements. Bah, je vais partir de ça et puis de ce que je peux apporter, de ce qui m'éclate et créer quelque chose. La liberté aussi de ne pas faire certaines choses si j'en ai pas envie. Voilà, il y a des choses que j'aime moins, des sujets qui me plaisent moins, bah, je suis pas obligée de tout exploiter de A à Z et je peux rediriger vers d'autres professionnels, des collègues ou des partenaires. J'aime l'exercice en libéral, j'aime travailler en cabinet, j'aime aussi travailler en visio, les deux me plaisent. Je ne ferai pas que l'un ou que l'autre. Je pourrais pas faire par exemple que des visios. Au bout d'un moment, ça me gonflerait, je pense, d'être tout le temps derrière une tablette ou un ordinateur. Mais j'adore ces accompagnements-là. En fait, ce serait vraiment le fait d'y être tout le temps qui m'embêterait, mais ça participe aussi à mon équilibre. Faire que des rendez-vous en cabinet, je pense que j'en aurais marre aussi au bout d'un moment. Donc le fait que ce soit hyper varié, ça, je trouve ça vraiment absolument génial. Et puis bah, ce que j'aime en fait, c'est le sujet qu'on aborde, quoi. La conception, la périnatalité au sens large, je trouve ça vraiment passionnant. Évidemment, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait que je propose ce métier-là. Mais je ne m'attendais pas à aimer autant la proximité avec les personnes. Ça, c'est la surprise que j'ai, même si bien sûr on se dit, ah bah, j'ai envie d'être proche des gens pour faire ce métier, mais je me suis vraiment découvert une passion pour cette posture d'accompagnement et puis la posture de formatrice aussi. J'aime aussi le fait de travailler en cabinet parce que c'est notre petit cocon et c'est très ressourçant, pas que pour les personnes qu'on accompagne mais aussi pour soi. C'est un très beau cadre de travail, je dois dire. Et alors, question, qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors là, il me faut du temps pour réfléchir. J'ai du mal à trouver une réponse. Peut-être le fait de jamais être tranquille, c'est-à-dire que je pense que si tu lâches complètement les réseaux sociaux, etc., bah, c'est plus difficile d'avoir des rendez-vous. Et c'est pas ça le cœur de métier, c'est pas de communiquer sur les réseaux. Mais en même temps, j'adore ça. Je trouve ça vraiment kiffant. Mais c'est qu'en fait, il y a des moments, je suis pas dans ce mood-là. Donc aujourd'hui, je peux me laisser le choix de pas être tout le temps sur les réseaux. Et je suis pas tout le temps, je suis vraiment quand j'en ai envie. Donc ça, c'est assez chouette parce que je peux me le permettre. Mais quand même, tu te sens pas aussi posé que les personnes qui sont en salariat et qui peuvent par exemple se mettre en arrêt de travail. Voilà. Par exemple, si je suis malade et que mes enfants sont malades, tout le monde à la chaîne, ben, tu sais que ton activité, il va y avoir des conséquences, quoi. Donc ça, c'est. Voilà, ce manque de pérennité, de stabilité peut me déranger à certains moments. Mais je sais que ça fait partie de l'aventure. Ce que j'aime le moins, c'est que c'est un métier qui est pas reconnu à la fois. Par la médecine et puis enfin par le corps médical, c'est pas valorisé, c'est pas reconnu par l'État et donc on ne peut pas bénéficier de certains avantages. Et puis l'exercice, voilà, il est assez précaire quand même, même si j'ai la chance, j'ai des rendez-vous, mais par exemple l'histoire de la retraite quand tu es en indépendance, c'est quand même pas facile. Et puis ouais, ce côté, le fait que notre métier soit pas légitimé auprès des autorités, ben on est quand même sur la sellette à chaque instant. Ce qui est quand même hyper paradoxal parce que c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Enfin, c'est une posture. Hein. L'accompagnante, elle existe depuis tout le temps dans toutes les civilisations. Il y a quelqu'un qui accompagne le processus de la maternité, hein, au-delà du côté médical, mais vraiment une partenaire proche de la femme et du couple. Hein. Mais dans notre société occidentale, individualiste, très axée sur le médico, c'est bien, il y a ce truc de scission comme ça entre le médical et toutes les pratiques un peu obscures, alors que dans ce que je fais, il n'y a absolument rien d'obscur et d'ésotérique ou quoi que ce soit. Enfin, ça dépend des personnes. Moi, j'exerce de façon assez terre à terre. Mais quand même, voilà, se sentir pas légitime alors que, en fait, la plupart des personnes qui viennent vers moi me disent à quel point c'est utile pour elles, quoi. Donc ça peut être fatigant par certains moments, même si je pense que je fais pas partie des plus embêtées avec ça par d'autres personnes. Enfin, j'ai jamais été franchement critiquée, mais quand même, voilà, ça peut être pesant. Avec le recul, que dirais-tu ? Dirais-tu que ton métier est répétitif ou diversifié ? Ben, j'ai déjà répondu, pour moi, il est très diversifié. Quels sont vos principaux interlocuteurs professionnels ? Alors, les sages-femmes, psychologues, ostéopathes, gynéco, même si c'est plutôt par intermédiaire pour les gynécos parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, ce qui se comprend absolument, mais ils font partie des interlocuteurs intermédiaires, les personnes qui font des échographies, les centres PMA, et puis les autres professionnels dans la thérapie aussi. Selon toi, est-ce que je pourrais être une bonne accompagnante alors que je ne suis pas encore maman ? Eh bien oui, pour moi, alors c'est très subjectif, encore une fois, j'ai déjà entendu des discours comme quoi il fallait absolument être passé par le tsunami maternel pour pouvoir exercer. Moi, je ne fais pas partie des personnes convaincues que le gastro-entérologue, il a besoin d'avoir eu un cancer du rectum pour pouvoir être gastro-entérologue. Hein. Donc, non, moi, je ne pense pas qu'il faille absolument être maman. Quelque part, je me dis que c'est aussi bien de ne pas l'avoir été dans le sens où il n'y a pas de... Comment dire ? Oui, mais moi, mon vécu, etc. Alors que moi, je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer parce qu'elles sont mamans, et ça suffit absolument pas. Donc oui, avoir traversé la maternité te donne une approche, et puis des ressentis, peut-être, quand les personnes te parlent de certaines choses, tu peux imaginer ce que c'est, mais justement, si t'as pas cette posture d'écoute, eh ben, tu peux carrément transposer, alors que quand t'as pas eu d'enfant, tu peux pas le faire. Donc d'un côté, il y a des avantages à pas avoir d'enfant. C'est mon point de vue. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir envie vraiment d'accompagner, d'avoir cette capacité capacité d'apprentissage sur toutes ces informations-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Savoir se remettre en question, savoir être ouvert d'esprit, avoir tout ce que j'ai pu évoquer auparavant, et puis certainement plein d'autres qualités selon la façon dont vous allez l'exercer, quoi. La part émotionnelle de ce métier est très importante. Arrives-tu à faire la part des choses, laisser les histoires malheureuses au travail lorsque tu rentres chez toi ? Oui, carrément. C'est propre à moi, mais je ne suis pas du tout alourdie par les histoires des personnes que je rencontre, alors même que j'entends beaucoup de choses très très dures. Eh bien, tout passe par cette capacité à être dans l'écoute active et avoir toutes les bonnes connaissances aussi et d'appliquer au quotidien, dans la pratique, tout ce qui appartient aux valeurs de l'écoute active. Si on est vraiment là, dans cette place d'écoute active et à la posture juste, on ne rentre pas chez soi avec les problèmes des autres, ça fait partie du métier. Voilà, ça veut pas dire qu'on s'en fiche, c'est simplement que le vécu des uns appartient aux uns, et moi, mon vécu m'appartient, donc ce serait du vol de rentrer avec l'histoire des autres chez moi. Penses-tu qu'il soit nécessaire, voire indispensable, de faire un travail sur soi pour se blinder un peu émotionnellement ? Alors, j'aime pas trop la phrase. Pour moi, on n'a pas à se blinder. Ça, c'est une phrase, pour moi, qui n'est pas dans la posture juste, mais j'en réfère à ma formation sur la posture juste. Se blinder, c'est pas... Enfin, voilà, on n'est pas là pour se blinder, mais on est là pour trouver, justement, l'équilibre. Par contre, oui, pour moi, c'est nécessaire de faire un travail sur soi. Ça, c'est sûr et certain. Si on n'est pas en conscience avec notre propre fonctionnement, notre propre histoire, c'est pas possible de pouvoir accompagner les autres. Enfin, pour moi, ça fait partie des prérequis indispensables. As-tu du temps en dehors de ton entreprise pour des activités en famille ou extra-professionnelles ? Mais bien sûr que oui, évidemment. Je pratique de la danse, du pilates, j'ai une famille, j'ai 5 enfants, 3 enfants et 2 beaux-enfants. Heureusement que j'ai du temps pour faire d'autres choses à côté, ça c'est clair. J'en ai plus qu'avant, comme je le disais, j'ai rééquilibré parce que je peux me le permettre aussi. Mais ouais, heureusement, mais en fait c'est pas possible de faire sans ça. Au début je sais qu'on donne une énergie colossale, mais c'est important de garder un équilibre, quoi. Sinon, de toute façon, on tient pas longtemps, hein. Enfin, là, moi ça fait 4 ans que j'exerce, je suis encore une baby accompagnante, même si toute l'énergie que j'ai mise, j'ai l'impression d'avoir 20 ans de, de métier. Mais justement, en fait, tout se paye, hein. Donc voilà, faites attention à vous, c'est hyper important. Je sais qu'il y en a plein, et j'en ai fait partie, hein, des personnes qui se disent « Ah là là, je suis pas en train de bosser, c'est du temps perdu. » Faites attention à ça, vraiment. Dans ce cas, faites-vous coacher. Offrez-vous une séance d'accompagnement coaching avec moi ou avec quelqu'un d'autre, une partenaire, ou faites-vous un binôme avec quelqu'un peut-être d'un peu plus calme là-dessus et plus raisonnable, parce qu'on peut vite se cramer, quoi, voilà. Comment imagines-tu l'avenir de cette profession? Ben franchement, j'imagine rien du tout parce que tout est lié à la politique. Moi, je crois qu'on ne pourra jamais supprimer la place des accompagnantes parce qu'elles font juste partie du bon sens et de l'équilibre des humains. Mais par contre, l'avenir de la profession, ça dépend des décisions politiques, etc. Donc je pourrais pas répondre. Et c'est ça qui est assez chiant aussi dans ce métier. En dehors d'une nécessaire motivation, quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait exercer ce... Alors, je reprends. En dehors d'une nécessaire motivation, quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait exercer ce métier? De bien se former, de pas lésiner sur la formation, de se former aussi à toute la partie entrepreneuriale, de se former à la posture d'écoute, si ça fait pas partie du socle, mais normalement si vous prenez une formation globale avec un socle, voilà, un socle sérieux, il y a des formations sur la posture d'accompagnement, la posture d'écoute active. Autre conseil, si vous avez eu des enfants, prenez le temps de vous poser la question de savoir si c'est passager, c'est-à-dire que vous êtes passionné par ça et donc vous avez trop envie d'en faire votre métier. Mais le risque, c'est qu'une fois que votre enfant aura 4 ans, 5 ans, vous aurez plus de petits, vous allez peut-être vous lasser. Donc faites attention à ça parce que ça se rencontre. Donc voilà. Et bien évaluer, quand je dis motivation, en fait il y a motivation et motivation. Est-ce que c'est vraiment un truc très profond ou alors est-ce que c'est passager? Alors dans ces cas-là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'exercer, mais déjà soyez vraiment bien formé à la posture d'accompagnement. Je réitère, hein. Et mettez-vous en condition peut-être pour pas que ce soit le job de votre vie, quoi. Et puis, soyez prêts à bosser comme des malades. Voilà, c'est difficile de dire les choses autrement. Alors ça paraît contradictoire entre bosser comme des malades et préservez-vous. Mais trouvez ce juste équilibre, hein, ni dans un excès ni dans l'autre. Quelles sont à ton avis les principales qualités et compétences que l'on est amené à développer dans le cadre de ce métier? C'est très redondant, hein, comme question. Je l'ai dit, les compétences, on en a déjà parlé. Les qualités, l'ouverture d'esprit, capacité d'écoute, mais pour moi, c'est au-delà d'une qualité, c'est une compétence professionnelle. Qualité, la douceur. Pour moi, c'est important d'être douce. Quand je dis douce, c'est de savoir faire la place à l'autre, en fait. D'amener les choses avec délicatesse. Dans les qualités, être dynamique. Enfin, il y a tellement de qualités, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure doit faire écho, hein, avec ce que je peux aborder, mais ouais, globalement ça va être ça. Et à l'inverse, peux-tu me citer l'une des erreurs professionnelles qui te choque le plus dans le cadre de ce métier? De faire des modules de formation, que ce soit massage bébé, massage femme enceinte, module sur l'allaitement, module, enfin voilà, des petits modules de formation, de connaissances en fait, ou alors de compétences pratiques, et de se lancer en tant qu'accompagnante périnatale. Pour moi, ça suffit pas. Encore pire si on se forme pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est pas formé, mais on n'est pas obligé de se former parce que le métier n'est encore une fois pas reconnu. Donc on peut très bien se lancer du jour au lendemain, mais vous allez vite vous cramer, donc ne faites jamais ça. Et je sais que les personnes qui écoutent ce podcast ne feront pas ça. Mais dans les erreurs, j'en ai vu plusieurs, hein, mais aussi se placer en sauveur. C'est pour ça, formez-vous bien, parce que ça peut parfois être très tentant de vouloir être accompagnant pour apporter tout ce que les autres ont besoin, et puis être leur béquille, et puis les sauver d'une situation, et ce syndrome-là, il est hyper dangereux en accompagnement, en fait, super attention à ça. Dangereux pour les accompagnés, mais aussi pour vous, en tant que, enfin je dis vous si vous vous reconnaissez ou que vous pensez que ça peut faire partie des métiers et des écueils dans lesquels vous pouvez tomber, d'où la nécessité de travailler sur soi, mais de façon perpétuelle, de savoir se remettre en question, très régulièrement. Une des autres erreurs, moi, qui m'énerve beaucoup, c'est de penser que j'ai forcément raison parce que, de pas être objective, en fait. Le manque d'objectivité, le manque de neutralité, d'être trop, too much dans quelque chose d'absolument naturel. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais soyons à l'écoute, en fait, des personnes. Et le prosélytisme, pour moi, c'est un des pires trucs que je peux rencontrer dans mon métier. Ça m'agace énormément et je trouve que c'est très très dangereux. De promouvoir une façon d'accoucher, une façon de materner, une façon de concevoir, une façon d'être enceinte, etc. Il y a tout un ensemble de possibilités, on n'est pas là pour être des prosélytes. Donc voilà, ça pour moi c'est des choses très dangereuses. Et d'autres choses qui ne me vont pas non plus. Alors c'est pas que dans l'exercice du métier, mais c'est plutôt dans la pratique de l'entrepreneuriat, c'est de piquer le nom d'autres personnes qui sont déjà installées. Moi, je sais qu'un temps pour naître a été usurpé. Ben, pour l'instant, j'ai pas forcément rebondi, mais ça pourrait se passer. D'ailleurs, j'ai déposé votre nom à l'INPI, clairement. Hein. Je suis peut-être un peu cash dans ce que je dis, mais en fait, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, faut pas déconner. Et le monde de la périnatalité, moi, j'ai pu découvrir qu'en fait, derrière une façade de douceur et de cuicui des petits oiseaux, c'est pas toujours le monde des bisounours, quoi, clairement. Donc, il se passe des choses pas chouette parfois, donc ouais, de voler le travail des autres, quoi. Voilà, moi, ça, c'est, je trouve ça vraiment nul, et je le vois quand même régulièrement, soit parce que j'ai déjà été copiée plusieurs fois, et parce que des personnes que je peux accompagner en coaching ont eu ce problème-là, de façon ouverte ou plutôt par derrière, c'est souvent par derrière, mais parfois de façon totalement ouverte. Alors, moi, je trouve ça dingo, quoi. Le fait de venir parler aux autres concurrentes en essayant de les casser ou en se méfiant ou en sabotant leur travail. Enfin, voilà, ça, c'est des choses que j'ai déjà vues, que je trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment naze, quoi. Mais ça, je pense que c'est pas inhérent au métier d'accompagnante. En fait, c'est plutôt quand il y a quelque chose de concurrentiel. Parfois, il y a des personnes qui sont pas très bienveillantes. Et puis, ouais, des écueils professionnels autour de cette posture d'accompagnement, quoi, de ne pas être de réels accompagnants, mais ben justement, parfois, ça peut être dangereux, quoi, quand on n'a pas fait le travail pour soi, on peut vite devenir pas du tout bon accompagnant, et donc, ça fait partie des choses auxquelles je fais hyper attention, moi, je me remets très régulièrement en question. Je dis pas que je suis tout le temps parfaite dans ma posture d'accompagnement, loin de là, mais j'ai justement, j'essaye vraiment de me remettre sans cesse en perspective, parce que c'est jamais gagné, quoi. Et si un jour je considère que c'est gagné, ça ne marchera pas, parce que justement je serai sur mes acquis. La posture d'accompagnement, c'est tout l'inverse de ça. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. Oui, effectivement, je rescrolle un petit peu toutes les questions, j'ai répondu à tout, pour un épisode qui sera assez long, mais du coup qui sera certainement très utile pour les personnes qui sont en reconversion et qui souhaitent se renseigner sur le métier. Alors, encore une fois, c'est ma vision des choses. Évidemment, vous le savez, parce que si vous faites ces questionnaires-là, c'est que vous l'envoyez à plusieurs personnes, hein, et donc chaque approche est différente, hein. Vous aurez des accompagnants qui vous diront des réponses très différentes des miennes, mais ce sont les miennes, c'est ma façon de voir mon travail. Donc voilà, de but en blanc, de façon très transparente, mes réponses, en vous souhaitant une bonne reconversion. Au plaisir de pouvoir échanger avec vous quand vous serez sur le chemin de l'accompagnement. Et puis pour les personnes qui ne sont pas du tout dans cette perspective, mais qui ont quand même écouté l'épisode de podcast, peut-être pour en savoir plus sur mon métier tout simplement, eh bien merci de votre écoute et puis à bientôt pour un nouvel épisode.